racing or watching.
La dispute. Ce soir, les séries. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy du site Como, Boris Pino et Grégoire Di Fior. Et la prise de son assurée ce soir au Bel Air par Julie Garraud, Stéphane Desmond et Tahar Boukrifa. Et la réalisation signée Daniel Finot. Autour de moi ce soir, Mathilde Serrel, Lucille Como et Joseph Gosne, avec qui nous allons parler de la saison 4 de Black Mirror, de Charlie Brooker. Nous parlerons également de Maroni, les fantômes du fleuve, créé par Aurélien Molas, et de Coles, créé par Timothée Hochet. Grégoire Di Fior va tenter de surveiller sur son petit écran les films Twitter et Facebook. Je ne sais pas, on verra. Pendant cette émission, si vous avez des commentaires vous aussi à faire sur les séries dont nous allons parler. Puis il y aura bien sûr des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran, moi, Claude Monet. C'est à partir du 23 janvier au cinéma. Et nous ouvrons cette dispute consacrée ce soir aux séries en public du Bel Air, le bar de la maison de la radio, avec la saison 4 de Black Mirror. Le Black Mirror, c'est l'écran noir de votre téléphone lorsqu'il est éteint. C'est aussi l'un des programmes les plus addictifs apparus ces dernières saisons. Alors, c'est vrai qu'on a hâte d'en recevoir une nouvelle fournée, mais on a aussi peur de les regarder. Parce que les auteurs de ces pépites unitaires jouent avec nos angoisses par le biais d'une plus ou moins grande anticipation technologique. 6 nouvelles fictions nous sont arrivées sur Netflix, fictions qui donnent le plus souvent matière à penser.
Looking around at a world of injustice, intolerance and huge environmental challenges, it's hard to imagine a bright future. But we can and we must.
Been mental before the system.
Nothing is gonna happen. You're gonna be fine.
Where am I?
Hip hip hooray!
A sunnier future.
Turn it off.
But how long can happiness realistically last anyhow?
Have faith in the system.
Because it really does work.
I see trees of green.
Private stuff is private stuff.
Red roses too. I see them blue.
I mean, are we just meant to go at it?
Define go at it?
Fucking hell.
And I think to myself,
what can we do?
Everything happens for a reason.
What a wonderful world.
It's more like a waking nightmare.
Everything happens for a reason.
Quel monde merveilleux. Enfin, peut-être pas celui de Black Mirror, hein, c'est un autre problème. Joseph Gosne, est-ce que vous étiez déjà séduit par Black Mirror dans les saisons précédentes avant de découvrir cette nouvelle saison ?
Oui, tout à fait. C'est une série que j'ai suivie depuis ses débuts, plus ou moins. Dont certains épisodes m'ont beaucoup marqué, notamment le premier épisode de la première saison, dont tout le monde se souvient, tout le monde reparle.
Alors, on rappelle
l'épisode avec notamment avec le premier ministre britannique qui subit un chantage et qui, à un moment, c'est le moment dont tout le monde se rappelle, où à un moment il est obligé d'avoir une relation sexuelle avec un porc. Si je me souviens.
Une truie,
excusez-moi.
En direct à la télévision.
En direct à la télévision.
Sinon.
Voilà. Et donc, Black Mirror était bien, enfin, débuté bien parti, pardon. Et il y a eu ensuite des épisodes comme ça assez marquants, dont cet épisode assez fameux, je crois qu'il était le premier de la troisième saison. C'est l'épisode avec cette fille qui était dans un monde où tout le monde se notait, tout le monde se note, et vous voyez avec, à travers votre téléphone la note de votre popularité. Et plus votre popularité baisse, et moins vous avez de chances de survivre finalement. Ouais. Et cet épisode-là était très marquant parce qu'il il arrivait au moment où effectivement on se mettait tous à noter, à liker, et on voyait un peu les limites de ce système-là. Donc Black Mirror marchait, mais marche toujours, je crois, parce que ça reflète ce que nous sommes et ça raconte un peu ce que nous sommes en train de devenir. Alors cette nouvelle saison m'a beaucoup séduit parce que j'y ai effectivement eu beaucoup peur. J'étais très très angoissé, notamment dans le dernier épisode Black Museum, l'épisode avec cette enquêtrice qui interroge des gens et qui à travers une machine un peu sophistiquée voit leurs pensées devenir des images,
leurs souvenirs,
une
enquêtrice d'assurance, souvenirs,
voilà. Et donc il y a beaucoup d'angoisse et il y a beaucoup de choses aussi assez touchantes. Moi, j'étais assez touché en fait par le premier épisode, cet épisode où il y a un personnage qui est un inventeur de jeux qui parvient à constituer à travers le jeu qu'il a inventé un monde complètement parallèle dans lequel il vit, dans lequel il reproduit à travers l'ADN qu'il vole de gens autour de lui. Il reproduit ces personnes-là de manière totalement virtuelle, mais il existe, il arrive à exister avec ces personnes-là. Et cet épisode-là m'a vraiment beaucoup
touché. Sachant que dans la vie réelle, évidemment, il est malmené,
personne ne le considère.
Dans le monde imaginaire, il est le chef absolument terrifiant.
Il devient terrifiant, ça devient un tyran, et c'est vraiment l'envers du décor. Ça peut paraître assez banal comme ça, mais finalement, c'est assez touchant sur cette idée qu'il y a toute une génération de gens qui sont ce qu'on appelle des geeks, qui ont été nourris à l'idée qu'ils vont vivre dans des jeux vidéo, et là il parvient à réaliser cela et il vit dans ça. Il vit d'ailleurs dans une fiction qui est une pâle copie de ce qu'était Star Trek dans les années 60, c'est-à-dire quelque chose d'assez désuet, assez enfantin. C'est vrai qu'il n'est même pas du calibre de Star Wars finalement, mais voilà, il y a quelque chose d'assez touchant. Moi, ce qui m'a surtout marqué dans cette série, et ce que je trouve très très fort dans tous les épisodes, puisque évidemment il faut rappeler que chaque épisode est différent, que ça ne se suit pas, mais que c'est une anthologie. Donc à chaque fois, chaque épisode contient une histoire. Ce qui m'a vraiment marqué, c'est deux choses. C'est que j'ai l'impression que ça travaille énormément sur le temps, c'est-à-dire comment on fait pour apprivoiser le temps. Et à chaque fois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Le temps qui passe, il y a beaucoup de traversées d'espace.
La question de durée est très importante.
La durée, le fait de comment on fait aussi pour survivre dans le temps. Et le premier épisode dans ce sens-là est vraiment à propos de cela, c'est-à-dire cet homme qui finalement est seul, qui rentre chez lui, et comment il fait pour survivre dans ses moments de solitude. Il invente un monde parallèle. Donc il y a beaucoup ça. Et il y a aussi, ce qui m'a aussi frappé, c'est aussi la question de la famille. C'est assez central dans chaque épisode, j'ai l'impression. La famille, comment on la construit, comment on la détruit, comment on tente de la préserver et comment on la détruit en tentant de la préserver aussi.
Lucille Comeau, premier regard sur Black Mirror, saison 4.
Oui, alors moi, c'est une série que j'aime et à la fois qui m'énerve un peu. Parce que
je vous reconnais bien là, Lucille.
Parce que j'y sens, on peut en discuter pendant des heures. Même chaque épisode peut donner lieu à des milliers d'interprétations et des conflits, et des disputes d'ailleurs intéressantes. Mais je pense qu'il y a un côté un peu petit malin derrière ça, qui tient à la fois au sujet, qui est évidemment un sujet qui préoccupe tout le monde, à savoir le frottement, en gros, entre une réalité qui ressemble beaucoup à la nôtre et les hautes technologies, et qui tient aussi à une forme, puisque même si les épisodes ne se suivent pas, il y a à la fois des motifs communs. Alors en effet, Joseph évoquait la question du temps, la question de la famille, il y a aussi des formes communes, et c'est intéressant de ce point de vue de prendre cette saison à rebours, puisque on a un dernier épisode qui fonctionne en fait un peu comme un épilogue et qui permet de ressaisir un peu le tout, puisque à l'intérieur de cet épisode-là, donc de ce
Black
fameux
Museum,
musée, voilà, dans lequel une jeune fille va entrer, et elle va se retrouver face à une sorte de maître de cérémonie dont on comprend qu'il pourrait être le narrateur de tout Black Mirror, qui lui présente des objets qui en fait sont des objets issus d'autres épisodes de Black Mirror. Donc il y a un effet résumé et évidemment un effet mise en abîme. Et dans cet épisode, on comprend que Black Mirror fonctionne avec un « but », c'est-à-dire un « mais », c'est-à-dire tout se passe bien, on ajoute un outil technologique par-dessus la réalité, tout se passe bien, mais ça rate évidemment et on tourne au cauchemar. Et cette forme-là, cette forme du « mais » qui fait basculer à chaque fois la dystopie, grâce auquel fonctionne la dystopie, c'est la forme même de tous les épisodes de Black Mirror. Et c'est assez drôle que le dernier épisode donne à ce point-là les clés de la compréhension de la forme, parce que je trouve que quand on a compris cette forme-là, finalement, on sait à quoi s'attendre au niveau du récit, hein, j'entends, de l'avancée du récit dans chaque épisode. Au-delà de ça, il y a quand même des choses très différentes. Oui, tout à fait. Alors justement, il y a des exceptions. Il y a notamment un épisode qui est tout à fait différent, qui est ce fameux épisode avec l'espèce de Minitel qui enregistre les souvenirs. C'est drôle parce que cet appareil, il est extrêmement archaïque par ailleurs.
Oui, dans son design, on dirait un Minitel, vous avez raison.
C'est vraiment une sorte de Minitel un peu allongé. Oui.
Sur le patient.
Voilà, et cet épisode-là, en l'occurrence, il est un petit peu différent. Il est plus linéaire, il a une forme différente. Et la technologie n'est pas le fameux bot, mais une sorte d'adjuvant ou d'opposant, mais en tout cas pas, la technologie n'est pas au centre de l'épisode, et justement je le trouve un peu raté. Je pense que quand le dispositif en question ne s'applique pas, ce fameux dispositif qui est décrit dans le dernier épisode, c'est un petit peu plus classique ou moins intéressant.
Autre contre-exemple quand même, sur une saison qui compte que 6 épisodes, Hank the DJ, qui est l'avant-dernier, me semble-t-il, qui est sur une appli de rencontre, et Mathilde Serrel va nous en parler merveilleusement, parce que la réalité n'est plus si loin de Black Mirror, il n'y a pas de but. Mais alors là, il y a une vraie chute que j'ai trouvée pour le coup très brillante. Enfin, il y a un processus de narration dont on ne dira rien ici pour ne pas divulgâcher, mais qui donne une autre tonalité. C'est un épisode différent. Donc vous voyez, ça en fait déjà deux différences sur 6.
Il est différent parce que sa fin est plus ou moins heureuse. Mais en l'occurrence, la forme en elle-même, elle n'est pas si différente. C'est juste que le basculement ne s'opère pas de la même manière, pas du même côté, disons.
Lucille, on verra. Mathilde Serrel.
Alors peut-être qu'il faut préciser ce qui se passe dans ce fameux épisode Hang the DJ. Il y a en effet une application de rencontre qui va proposer aux gens de vivre l'expérience de rencontre en prenant tout en main. En fait, c'est une grande machine, un grand ordinateur des sentiments qui s'occupe d'associer les gens en fonction, alors soit d'un algorithme très intelligent, soit peut-être de n'importe quoi, d'une variable totalement aléatoire. Et c'est ce que vont commencer à présupposer les deux personnages. Donc au départ, ça ressemble un petit peu au monde de Tinder. C'est une application qui va également organiser le lieu de rencontre, ce que vous allez manger, on décide de tout à votre place. Et c'est un épisode qui met en abîme le libre-arbitre par rapport aux nouvelles technologies. Moi, je le trouve très intéressant parce qu'il est plein d'espoir. Et comme le disait une sociologue des médias et du numérique qui était invitée chez Nicolas Martin dans la méthode scientifique, l'excellente méthode scientifique sur France Culture. Donc, elle en parlait en disant que ce qui était très difficile dans Black Mirror, c'est de subir cette variable dystopique de la technologie, de ne rien pouvoir y faire. C'est-à-dire, épisode après épisode, de voir que lorsqu'on intègre un nouvel élément technologique, il y a un moment on est dépassé, on en perd le contrôle. Et là, c'est un épisode qui montre qu'on peut reprendre le contrôle sans vouloir divulgâcher. Donc, en soi, il est effectivement à part, différent des autres. Et puis, il faut aussi souligner que même s'il y a une structure narrative avec ce but qui est donc toujours ce que vous acceptez de la technologie dans votre confort jusqu'à ce qu'en fait, elle vous retire du contrôle et du pouvoir, il y a aussi des variables stylistiques. Et quand même, cet épisode donc, de cette enquêtrice qui va utiliser un corroborateur, c'est très intéressant, le lexique aussi de Black Mirror qui invente la façon dont on va décrire les choses peut-être demain. Donc, le corroborateur va dans vos souvenirs et on se retrouve comme ça à pouvoir revivre les événements. Et dans cet épisode qui est réalisé par Jodie Foster, je trouve qu'on retrouve...
C'est pas celui-là.
Non,
c'est pas celui-là. C'est Archangel.
Ah non, c'est Foster. Archangel,
c'est l'histoire de la maman et de sa petite fille.
C'est vrai. Mais celui-là, il est un petit peu à part dans un scénario, mais c'est vrai que Archangel, par exemple... Mais aussi, d'une certaine façon, celui-là, il parle des relations humaines. Et il n'y a pas que la technologie. Dans l'épisode de Jodie Foster, je trouve ça très intéressant. Finalement, Archangel, c'est un système de surveillance. Donc,
pour des savoir, enfants pour les
enfants
parents.
Pour savoir où est-ce qu'ils sont.
On sait bien que ça existe déjà. Voilà. Donc, on est juste un peu plus sophistiqué, celui-là.
Voilà, on est avec une tablette et on va se retrouver donc, à pouvoir surveiller, voir ce que l'enfant voit, contrôler son stress de cortisol avec le taux de cortisol qui monte. Et donc, évidemment, quand on peut tout surveiller, on ne peut plus s'empêcher de regarder. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir à quoi exposer par exemple une jeune fille, qu'est-ce qu'on présuppose de peur dans ce qui peut l'attendre à l'extérieur, et comment finalement, en n'ayant pas réglé une situation de danger qui concerne une jeune fille dans le monde actuel ou des rapports sains entre une mère et une fille, eh bien voilà, il y a le substitut de la technologie qui arrive et finalement c'est dans cette faille qu'on s'enferme et qu'on va commencer à avoir des problèmes. Et je trouve que Jodie Foster, c'est ça qu'elle pose très très bien. Et du coup, ça a une dimension qui dépasse cette dystopie systématique de Black Mirror autour de la technologie. Et les relations humaines, Joseph Gunn l'a dit, je pense que c'est le plus de cette saison.
C'est vrai que la saison précédente, saison 3, c'était presque un catalogue de films de genre, puisqu'on avait le film d'horreur, la comédie, enfin la comédie, la Black Mirror, hein, c'est jamais très drôle, le policier, etc. Et ici, on n'a pas tout à fait ça, mais moi, je regrette quand même l'américanisation de la série, parce que, si on se souvient bien, la saison 1 était 100% britannique, c'est sur Channel 4, et dans mon souvenir, mais pas seulement, j'ai un peu re-regardé, les épisodes quand même, et tous les épisodes, celui du Premier ministre britannique et d'autres, étaient quand même 100% british, au sens où il y avait quand même un léger décalage, une sorte de qui est propre à l'imaginaire et à la culture grande-bretonne, c'est-à-dire un décalage, une sorte d'humour très acide. Après, bon, la série a été reprise et produite maintenant par Netflix. Et là, c'est vrai qu'on a un catalogue de films américains quand même plutôt, puisque ça s'ouvre, comme vous l'avez dit, avec cet épisode qui joue avec l'imagerie de la vieille série Star Trek. Donc, c'est vraiment dans l'imaginaire américain. Moi, ce troisième qui s'appelle Crocodile, dont vous faisiez parler, où il y a le corroborateur, je trouve quand même assez poussif quand même au niveau scénaristique. Il y a un cinquième dont on n'a pas parlé, qui est Metalhead, qui ne vaut quand même que par direction de la photographie, parce que c'est un survival, comme on dit en bon français.
C'est un épisode en noir et blanc.
Noir et blanc, très belle photo. Il s'agit d'échapper à un robot tueur. Bon, il ne dure que 40 minutes. Ça, c'est aussi le luxe de Netflix d'avoir des durées variables. Mais il n'y a pas grand-chose à en dire. Archangel, il me semble, sort l'épisode de Mère et Fille, sort un peu du lot. Mais vraiment, c'est Hang the DJ Black Museum qui sont pour moi les grands moments de cette saison 6. Vous n'êtes pas d'accord, Lucille Comeau?
Moi, j'aime pas tellement ce deuxième épisode sur la mère et sa fille, précisément parce que tout ce qui est humanisation est à l'extrême, et du coup arriver du pathos dans l'univers de Black Mirror m'intéresse beaucoup moins que ce qui était un peu avant le sel de cette série, à savoir cette espèce de cynisme, l'humour noir très anglais dont parlait Arnaud. Et je trouve que ce qui était déjà une tendance de la série, qui était une tendance très moralisatrice sur dans le fond sur la technologie et sur la modernité en général, s'accentue énormément avec l'extrême humanisation des personnages. C'est-à-dire qu'à partir du moment où en plus on a vraiment pitié des personnages et où on s'identifie à eux, comme c'est le cas dans ce second épisode où tout est fait pour qu'on s'identifie très profondément, là pour le coup c'est notre réalité, cette femme vit dans une sorte de banlieue pavillonnaire un peu blanche, grise des États-Unis qu'on voit par ailleurs beaucoup au cinéma, donc c'est quelque chose qu'on connaît, on s'identifie beaucoup à ces deux personnages-là, et du coup la fin est pour moi extrêmement moralisatrice, et je trouve que au contraire le premier épisode est sans doute celui qui conserve le plus le début, enfin cet esprit du début de Black Mirror, où c'est extrêmement ambigu, c'est-à-dire que ce personnage de geek qui se retrouve le soir à exercer une sorte de cruauté absolument de plus en plus barbare sur ses collègues et qui le martyrise toute la journée. Ça, là, il y a de l'ambiguïté. Ce personnage-là, qui est interprété par Jesse Symons, je crois que c'est son nom, qui est par ailleurs un acteur formidable, je trouve. Là, il y a quelque chose de l'humour noir du début. Moi, j'ai beaucoup ri, alors que dans les épisodes d'après, pas tellement.
Alors, je ne sais pas si c'est une blague, Grégoire Difior, mais on a un tweet auquel on peut répondre, si ce n'est pas une blague.
Oui, HP LOL4 qui nous signale que Black Mirror n'a que 2 saisons. Il me semble que vous débattez de la très moyenne nouvelle saison de Netflix, Twilight Zone.
Alors non. Non, il y a bien 4 saisons et même eu un Special Christmas, qui était d'ailleurs un des très 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 bons épisodes de Black Mirror. Ah, Noël Blanc, je crois que ça s'appelle. Oui. Je vous le conseille très vivement. Joseph Gauss.
Effectivement, il y a une américanisation que l'on voit. Quasiment chaque épisode par cette idée assez simple qui est que finalement il y a une addiction à la technologie et cette addiction mène à la violence forcément. Et là on le voit partout, c'est-à-dire le premier épisode avec le geek effectivement qui devient addict à sa propre création et qui en devient hyper violent virtuellement mais finalement c'est ce qu'il est et même dans cet épisode en noir et blanc qui effectivement n'est pas terrible, c'est-à-dire que la technologie devient elle-même violente, cette espèce de chien robot totalement inlassable et qui est juste là pour tuer.
Et au fond, on l'avait déjà dans la saison précédente avec cet épisode d'abeilles tueuses, drones tueuses qui s'en prenaient aux gens à partir d'un système de vote de meurtre sur Twitter.
Tout à fait. Après, ce qui m'intéressait, ce sont les inventions. Les inventions formelles, c'est-à-dire ces petites choses qui mettent tous sur la tempe et qui à chaque fois ont une fonction différente. Même cette idée du Black Museum, cette espèce de d'endroit, de territoire où on explore toutes ces machines, ces déviances, etc. Et finalement, c'est une sorte d'histoire parallèle de la violence. De ce point de vue-là, je trouvais ça plutôt réussi. Et la série est elle-même assez addictive.
Oui, parce que Black Museum, en plus, inclut des histoires, inclut à l'intérieur des histoires, choses, parce, oui. dont une qui est la plus développée, parce que elle n'est pas dans les épisodes précédents, d'un médecin qui peut ressentir la douleur des patients, ce qui était oui. très pratique quand on a un nouveau-né, par exemple. Et ben, on peut ressentir où il a mal, pourquoi il a mal, sauf qu'on peut devenir accro à cette douleur. Lucille Como.
Mais la fin de Black Mirror laisse augurer justement d'une possible remise à distance par le propre créateur. Bon, je ne vais pas la révéler, mais du coup, moi, ça m'a laissé espérer que la suite sera bonne et peut-être plus drôle. Et par ailleurs, il faut quand même dire que tous ces films, qui sont presque des films, parfois près du long-métrage, moi, je trouve, sont meilleurs que 80% des films que je vais voir au cinéma aujourd'hui.
Ouais, si, 90, non.
Voilà,
oui.
Non, mais
parce qu'en fait, vous ne voyez pas tout, en plus.
En fait, on se rend pas... Non, ouais, ouais. C'est sûr. Non, mais c'est quand même surprenant.
Oui, c'est d'une très, très haute qualité d'écriture, de réalisation, d'interprétation. Mathilde Serrel, pour finir.
Non, je suis d'accord, pour revenir à cette idée de petit malin dont on parlait aussi comme au début, il y a un peu l'effet Westworld dans Black Mirror, c'est-à-dire cette...
Mais qui a envie de voir la saison 2 de Westworld ?
Voilà, c'est ça.
Personne,
le problème. C'est-à-dire que voilà, Westworld, les premiers épisodes avec cette espèce de parc d'attractions, on va revivre des choses du moment de la conquête de l'Ouest aux États-Unis et on est dans un grand jeu de rôle. Et en fait, ce grand jeu de rôle, c'est une mise en abîme du travail scénaristique. Et c'est vrai qu'il y a cet effet. Je vous montre que je sais très très bien construire un récit du 21e siècle, que je maîtrise les arches narratives, etc. Et peut-être que d'une certaine manière, par rapport à la littérature, quand on est face à Black Mirror, on voit davantage les ficelles du récit. Mais ce qui est intéressant dans le côté petit malin pour aller jusqu'au bout, c'est que Charlie Booker, le créateur, il dit « Si notre imagination rejoint le réel quelques mois ou années plus tard, c'est qu'on a bien bossé, dit-il, avec un sourire narquois, parce que si ça se produit, c'est quand même vu que... »
Est-ce qu'on peut choisir l'épisode ?
C'est plutôt pessimiste, voilà. Dans Black Mirror, mais il est vrai qu'il y a un effet Black Mirror. Et c'est peut-être cela aussi qu'on aime avec cette série, c'est de retrouver dans le réel des choses qu'on a vues quelques semaines plus tôt. Donc, on parlait de cette application de rencontre Hang the DJ. Cette semaine, il y a une application qui est sortie justement, comme il y a un vote en Suède sur le consentement, pour qu'éventuellement on envoie un consentement par écrit, qu'il y ait une trace du consentement. Des Néerlandais ont sorti une application où on coche un certain nombre de choses, ce à quoi on consent, nos fantasmes, et éventuellement on peut décocher... Au dernier moment. Et je me suis retrouvée à regarder Hang the DJ de Black Mirror et la même semaine découvrir l'apparition d'applications dans le monde réel. Vous parlez du système de notation qui est dans l'épisode 1 de la saison 3. Il se prévoit en Chine à l'horizon 2020 pour les citoyens chinois à travers le big data, donc l'enregistrement des données, de donner des notes à chaque citoyen chinois et de les sanctionner en fonction du bon ou du mauvais citoyen sur un ensemble de paramètres. Il y a aussi Samsung, entre autres, qui travaille sur l'enregistrement de ce que vous apercevez avec des lentilles comme ça.
Oui, parce qu'il y avait un épisode où on pouvait rembobiner.
Voilà.
T'as pas dit ça. Si, t'as dit ça. Regarde.
Ouais, regarde.
Horrible.
Donc c'est là, et je trouve que l'effet Black Mirror
la mauvaise foi.
Est intéressant.
Qu'est-ce qu'on va
quand on regarde les informations et que on se rend compte que c'était déjà dans Black Mirror.
Non, je laisse Gauss pour finir vraiment.
Oui, juste peut-être un tout petit bémol qui est que esthétiquement j'ai l'impression que les références renvoient au passé en fait maintenant. Star Trek, même le dernier épisode renvoie à la narration qu'il y avait même dans Twilight Zone avec un narrateur qui raconte des histoires, et même vous citiez tout à l'heure le survival comme genre, là effectivement c'est la première fois on se demande si la série n'est pas justement en train de revenir en arrière du point de vue esthétique et narratif.
Saison 4 de Black Mirror et les précédentes créées par Charlie Brooker à découvrir sur Netflix.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte. Get the right.
Dans quelques minutes, nous parlerons de Calls, série audio de Canal+, mais pour l'instant, dans cette émission consacrée aux séries, toujours en direct du Bel Air, la Maison de la Radio, le bar de la Maison de la Radio, on va s'intéresser à la nouvelle mini-série d'Arte, Maroni, les fantômes du fleuve, dont les 4 épisodes seront, curieusement quand même, diffusés à la suite dans la soirée de jeudi prochain, le 25 janvier, les 4 à la suite, le binge-watching officiel pour les téléspectateurs. Maroni, donc, qui va suivre l'arrivée de Chloé, jeune gendarme à Cayenne, aussitôt mise sur l'enquête du meurtre particulièrement sanglant d'un couple de métropolitains et surtout qui avait un jeune fils qui a, lui, disparu.
On connaît le nom de nos victimes. Hugo. Leur fils est porté disparu.
En Guyane, il y a mille façons de jeter un mauvais sort.
Les victimes sont des blancs, n'est-ce pas? Alors ça ne regarde pas notre communauté.
Je m'en fous de ces histoires de crotte-mitaine. Sont des flics ou j'ai raté quelque chose?
Il y a des règles tacites.
Les frontières sont invisibles, les ennemis fantômes.
Les personnes que vous cherchez ne sont pas juste mauvaises. Elles ont franchi un point de non-retour.
Tout homme qui s'aventure aussi loin dans la forêt mérite sa part de malédiction.
Lucille Gobon, votre série chouchou, Maroni, les fantômes non, du fleuve. Alors... Non, il faut expliquer. Non, je fais un peu de coulisses
voilà.
À nos auditrices et auditeurs. Quand on fait toutes les émissions d'ailleurs, hein, l'émission série comme les autres, on a le choix, évidemment. Donc on commence à regarder des choses qui parfois nous tombent des yeux. Donc par charité chrétienne, on ne les programme pas pour pas être évidemment tous à en dire du mal. Et puis bah, finalement, on s'est dit, alors Maroni, on va regarder. Lucille nous a dit, allez, on y va, on y est allé, nous y sommes. Maroni.
Bon, c'est très méchant.
Pourquoi non, j'explique voilà, comment là, ça se passe, la programmation, c'est collégial.
Ce n'est clairement pas ma série chouchou, soyons clairs. À l'inverse, je trouve que c'est plutôt une bonne série. Je m'explique. Alors déjà, ça se passe en Guyane, dans un lieu qui est...
On n'avait pas parlé de Guyane exprès, par exemple, une précédente série d'Arte.
Exprès parce que ça se passait en Guyane?
Non, parce que non, celle de la précédente était... pas bonne du tout.
Oui, alors je ne l'avais pas vue, donc je ne peux même
donc
pas faire la
comparaison. Donc on avait écarté, par exemple, cette série-là.
Voilà, alors, bon, du coup, je ne peux pas parler de cette précédente série, puisque je ne l'avais pas vue. En l'occurrence, moi, la Guyane, c'est un endroit que je ne connais pas. Donc déjà, la représentation en soi de cet endroit-là, avec ce regard-là, qui est un regard étranger, qui est du coup totalement le relais d'un spectateur comme moi, à savoir cette jeune gendarme qui arrive sur le territoire, qui vient de métropole et qui ne connaît pas non plus, je trouve est intéressant. Il faut dire que... à ma décharge, j'ai vraiment l'impression de me défendre.
Non, mais allez-y.
Que les premières minutes, je trouve, au moins le premier quart d'heure, détonnent par rapport à la fiction française, dans la mesure où il y a un sens du rythme qu'on voit d'accord. assez peu dans la fiction française. Et que du coup, moi, je recherche en permanence. Donc, j'ai été un petit peu aussi emballée par ces premières scènes. Elle arrive en voiture. Et une première scène qui est très belle, un plan où on descend sur sa voiture qui roule le long de la forêt amazonienne. Et très vite, hop, elle arrive au commissariat. Elle récupère l'affaire. Elle rencontre son partenaire qui est joué par Adam Agnané. Voilà, qui est un gendarme, enfin un policier assez taiseux, alors qu'elle, on comprend qu'elle arrive avec une somme de problèmes qui sont explicités plus tard. Je trouve que le duo fonctionnait bien au départ, que ça allait vite, et ça m'intéressait qu'on soit immédiatement sur la scène de meurtre. Par ailleurs, une scène de meurtre qui est explicitement cruelle, ce qu'on voit aussi assez peu dans la fiction française, donc l'alliance d'un rythme un peu effréné et... assumer comme ça la violence et la cruauté, je trouvais ça intéressant. Par ailleurs, la Guyane, alors peut-être que c'est du folklore, mais après tout le folklore c'est pas un gros mot et il y a un folklore qui est intéressant à voir et qui a été étudié par ailleurs. En effet, il y a une articulation entre le thriller et le vaudou, c'est-à-dire que tout se situe toujours à la frontière entre une enquête totalement rationnelle et extrêmement classique sur un double meurtre et l'enlèvement d'un enfant. Et l'affleurement de plus en plus présent, à la fin, ça devient un peu lourd, du folklore vaudou guyanais. Et je trouve qu'au niveau des lieux et du décor, de ce qu'on fait de ce lieu-là, de la Guyane, de la forêt, du fleuve, des lieux un peu sacrificiels où se passent les rituels vaudous, je trouve ça beau. Il y a des plans très beaux. Alors, vous avez tout à l'heure parlé en off d'une scène que moi, je trouve très belle, qui intervient un petit peu à la fin de la série. Donc, je ne vais pas vraiment raconter ce qui se passe, mais je peux décrire le lieu. Donc, la fameuse Chloé et son partenaire arrivent sur un lieu pour interroger un homme. Et c'est une sorte de parking à l'abandon, il n'y a pas de mur, il y a juste l'ossature d'un grand bâtiment où il y a écrit Eldorado, H-E-2-L Dorado, et où se passe à la fois une scène de striptease ou de, voilà, de danse avec de la musique à fond, tout est très coloré. Moi, ces lieux-là m'ont fait penser immédiatement à une autre série que j'aime beaucoup qui est Trou Détective. Vous allez peut-être sauter jusqu'au plafond, mais dans Trou Détective, la première
trop,
saison.
Hélas,
malheureusement. Oui, mais je trouve que la comparaison, elle ne dessert pas Guyane. Elle ne dessert pas Maroni. Dans Trou Détective, tout le folklore, en l'occurrence de cette Amérique du Sud, Louisiane, etc., il est tout aussi cliché que ce qu'on voit là. C'est exactement la même chose, les poupées vaudou, etc. À mon avis, la comparaison ne dessert vraiment pas Maroni, qui, là, ça, bon, je vais du coup donner du grain à moudre à mes adversaires, mais parce que c'est vrai qu'elle perd ce, justement, que le rythme se perd et que ça dessert à la fin beaucoup la série. Bon, je reviendrai après aux acteurs. Je vous laisse.
D'accord, Mathilde Serrel, Maroni.
Alors, en effet, je ne suis pas d'accord avec ma camarade Lucille Comeau, mais c'est bien d'avoir un point de vue différent, on est là pour disputer. Moi, je pense, pour revenir sur ce point de la comparaison avec True Detective et en finir, ce qui est intéressant dans True Detective, évidemment, c'est ce rapport entre les coéquipiers, ce sont ces discussions existentielles. Bien sûr, il y a le folklore du sud des États-Unis, mais moi, pour le coup, je trouve que les discussions existentielles sont extrêmement pauvres. La comparaison s'arrête quand on écoute les dialogues de Maroni, parce que finalement, il y a un peu tromperie sur la marchandise. Cette série, cette mini-série, hein, c'est en 4 épisodes. Donc, en plus, on a quand même l'occasion de faire œuvre quand on a 4 épisodes.
4 fois 40 minutes.
Pour regarder, par exemple, la série Aurore, produite par Arte, signée Laetitia Masson avec Elodie Boucher. Moi, je trouve que c'est extrêmement bien maîtrisé. Là, 4 épisodes.
Je trouvais ça horrible. Hein. On a choisi de ne pas en parler.
D'accord. Moi, j'ai aimé. En tout cas, là, sur les 4 épisodes, je trouve que, on se rate. Il était écrit que je devais être fidèle au cauchemar.
Que je devais être peut-être pas, mais que je devais être peut-être.
Beaucoup plus, ouais. Là, je me rate.
Parce que là, sinon.
Donc, il était écrit que je devais être fidèle au cauchemar de mon choix, un cauchemar orthographique, signé Joseph Conrad. C'est la citation qui inaugure donc ce Maroni. Alors, on se dit, l'univers de Joseph Conrad, la Guyane. Et on s'attend à des choses fines, des choses littéraires, et pas du tout. Je veux dire, dès le premier épisode, il y a une scène d'interrogatoire auprès d'une population guyanaise supposée un peu liée à ce trafic vaudou. Des blancs qui sont morts, ça ne nous regarde pas. C'est une des premières phrase. Moi, je trouve que là, tout de suite, ça démarre très mal. Par ailleurs, tout ce qui est vaudou, je trouve, me fait penser à un Angel Heart, par exemple, qui était absolument magnifique avec Mickey Rourke, là, très mal maîtrisé. J'ai l'impression de voir des réminiscences de Seven aussi, vraiment comme si on essayait de faire un petit joyau français vivifiant avec un peu trop détective, un peu de Seven, un peu d'Angel Heart, et qu'on n'y arrivait pas. Le son, par ailleurs, il y a des tentatives d'accompagner de manière sonore différemment cette série qui est quand même un polar. On va essayer de mettre des bruits de jungle et de pas forcément accentuer des musiques violon stressantes typiques de stress dans les scènes de polar pour essayer de l'autotune, du rap, des espèces de mixages étranges. Donc c'est une tentative. Moi, là, je la trouve pas forcément heureuse. Et enfin, pour finir, je pense que le vaudou, il y a un bon livre de Jean-François Bizot, le fondateur de Radio Nova, sur le vaudou et sa pratique en Haïti et en Guyane, entre autres. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on peut approcher avec beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de nuances, que là où, en effet, c'est un folklore, mais je trouve au mauvais sens du terme. C'est-à-dire qu'on n'apprend rien, alors que ça aurait été une occasion formidable. Pareil sur les plantes amazoniennes, qui sont un petit peu comme ça, travaillées en surface, on aurait pu découvrir des choses. Et là, il n'y a pas de recherche scientifique ou scénaristique. Du coup, on n'apprend rien, juste on est tenu en haleine pour savoir qui est le criminel. Mais si vous voulez, ça arrive assez fréquemment sans que ce soit de bonne qualité.
Joseph Gosn sur Maroni, les fantômes du fleuve, la semaine prochaine sur Arte.
Moi, je trouve que c'est une série qui démarre plutôt bien dans son premier épisode, on l'a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est assez joliment filmé. Il y a quelque chose qui se passe. On est assez intrigué par ce personnage. Et on se dit, tiens, voilà un corps étranger qui arrive dans un territoire qu'on ne connaît pas. Et comment est-ce que ça va se développer? Et effectivement, on s'attend, étant donné que c'est une série, à ce que justement la sérialité marche et que ce personnage-là se développe dans ce territoire. D'autant plus qu'on nous annonce dès le départ que c'est un territoire vaste comme la France, mais qui ne compte que 300 flics et 1000 gendarmes. Donc on sent bien qu'il va y avoir de la recherche d'espace, de la perte, etc., etc. Et on se dit que ce corps va sans doute changer. Et le corps, je parle vraiment du personnage de Chloé, de la jeune fille, et qu'on est confronté à une série d'initiations. Au départ, on a l'impression que c'est ça, c'est-à-dire que c'est l'initiation de cette jeune femme dans ce territoire. Initiation policière, initiation à la violence, beaucoup à la violence, on pense ça au début. Et malheureusement, ça se rate au bout d'un épisode. Et ça se rate à plusieurs niveaux, c'est-à-dire, déjà, je trouve que l'écriture s'affaiblit au fur et à mesure de la série. On sent qu'à partir d'un prétexte de départ, finalement, c'est assez peu écrit. On passe difficilement d'une scène à l'autre. Parfois, il y a de vraies incohérences. Des moments comme ça où on passe d'un événement à l'autre, comme si on avait été transporté. Il y a des vraies faiblesses de ce point de vue-là. On est un peu perdu. On n'est pas très tenu. Ensuite, le personnage en lui-même, on se rend compte très vite que ce n'est pas l'initiation, qu'on est dans une forme de rédemption plus ou moins, mais pas vraiment non plus. Il y a une exploration à un moment de sa sexualité, mais je trouve que c'est mis à mal assez vite. Donc il y a plusieurs pistes qu'ils ont développées, mais il n'y en a aucune qui est vraiment menée à bout. J'aurais préféré qu'on prenne un fil et qu'on le tire jusqu'au bout, surtout qu'il n'y a que 4 épisodes. Donc de ce point de vue-là, je trouvais ça assez faible. Et c'est d'autant plus faible que, effectivement, on pense à True Detective, mais pour le folklore. Par contre, moi, ça m'a fait beaucoup penser à des séries anglaises. Notamment, il y a eu beaucoup de séries anglaises policières avec des personnages de femmes qui finalement sont comme celle-là, un peu frappées par la vie, etc., et qui sont en reconstruction. Mais dans les Anglais l'annoncent d'emblée et disent d'emblée que c'est un univers qui est glauque, alors que là, on tente de nous séduire avec d'autres choses en mettant en rapport la fille un peu perdue, mais pas vraiment, le très beau paysage. Donc il y a quelque chose qui, au bout d'un moment, finit par vous lasser. Et je trouve qu'effectivement, l'usage du vaudou qui arrive progressivement et s'impose à la fin, moi, ça me fait penser à des films italiens des années 70, des giallo, des films d'exploitation, où au moins c'était pris pour tel, c'est-à-dire du folklore, de la musique très forte, des tambours qui vous hypnotisent, et c'était un prétexte uniquement pour montrer de la sexualité. Là, je trouve que ces prétextes n'ont pas grand-chose, et du coup ça se rate vraiment sur la fin, alors que le début était plutôt assez joliment prometteur.
Oui, le premier épisode, je suis d'accord avec vous, mais c'est vrai que la question du rythme dont parlait Lucille Como, c'est très problématique dès le deuxième, et ça ne fait que s'aggraver, des scènes très longues d'une façon tout à fait inutile. Et moi, c'est surtout la faiblesse d'écriture quand même que je retiens de Maroni, faiblesse scénaristique nombreuse. Bon, ils sont pas les seuls à avoir des incohérences scénaristiques, mais c'est toujours embêtant, surtout dans un polar. Mais surtout l'écriture même, il y a notamment un passage, je pense que ça doit être dans le troisième épisode, où pour nous expliquer quand même à peu près tout en un minimum de temps, on trouve un journal de bord audio sur une cassette d'un protagoniste du début de l'histoire qu'on a donc jamais vu. D'abord, c'est très très mal écrit, comme si c'était écrit en 1896, alors que c'est des années 80, mais du 20e siècle. Alors, ça doit être le retour de Conrad, mais vraiment pas du tout à niveau. Et puis, c'est très mal dit. Enfin, il y a quelque chose où on ne peut pas vraiment croire à ce qu'on essaye de nous raconter, parce qu'il y a un vrai problème de jeu, mais qui se retrouve aussi, me semble-t-il, vous vouliez parler des interprètes, Lucille Como, dans la direction d'acteurs, notamment d'actrices, Stéphanie Caillard étant l'actrice principale qui joue le rôle de Chloé. Et c'est vrai que, alors c'est la première fois que je la vois, donc je ne sais pas ce qu'elle vaut comme comédienne, parce que si je ne connais que Maroni les fantômes du fleuve, je me dis que son registre est très limité quand même, tout en tremblement et en halètement.
Alors, encore une fois, je trouve que la direction d'acteur, de la même manière que en fait, la direction que prend l'histoire, s'effiloche totalement et devient un peu inaudible, enfin invisible à la fin. Je trouve qu'au début, moi non plus, je ne la connais pas du tout. Apparemment, elle joue dans Marseille, mais là, c'est trop pour moi, je ne peux pas regarder Marseille. Mais en tout cas, je trouve qu'au début, elle est plutôt assez convaincante par le côté assez lisse qu'elle offre. Ça va un petit peu avec la rapidité du départ. Je trouve que cette espèce de déshumanisation un petit peu de sa figure est assez intéressante. Ça fonctionne pas. En revanche, moi, je suis quand même assez convaincue par Adam Agnané, que je n'arrête pas de voir dans des choses assez mauvaises, parce que je l'avais vu dans SK1, qui était un film sur l'affaire Guy Georges, où il jouait Guy Georges, qui est quand même pas un rôle extrêmement simple, et vraiment, il crevait à l'écran, c'est-à-dire qu'il sortait complètement de cette espèce de film un peu étroit dans lequel il était. Et vraiment, là, à nouveau, je suis assez séduite par lui, d'autant plus que je pense qu'en effet, son personnage est très mal écrit. Et il a une voix quand même incroyable, il a un côté doux et violent en même temps qui en font une figure, enfin un acteur qui, moi, m'intéresse vraiment et qui peut-être a réussi aussi à m'accrocher jusqu'au bout.
Oui, il a plus de chance que sa camarade, parce que lui, il a peu de texte, parce que justement, comme il est taiseux, Zeus. Mm. On est vraiment sur son corps et sa matérialité, et ce qu'il dégage. Et effectivement, il a une très belle présence, Mathilde Serrel.
Oui, la voix d'Adamanyané, elle est vraiment, elle est ouatée, elle est sombre comme les ténèbres, justement, pour rester chez Conrad. Et c'est effectivement lui qui sauve par son magnétisme la série et notre capacité, enfin, qui sauve en tout cas notre capacité à voir l'épisode d'après, au-delà de l'envie de savoir qui a tué
qui. Non, c'est la conscience professionnelle, c'est pas autre chose.
Non, parce que vraiment, je pense que ça avait été insupportable. Et en effet, on a envie de savoir justement comment ce personnage va régler ses démons passés. Et finalement, ce que je trouve assez terrible, c'est qu'une fois qu'il a la clé, bon, bah, on voudrait pas divulgâcher, mais voilà. Il est plus utile alors qu'elle, elle va trouver la lumière. C'est quand même terrible d'avoir eu une matière de
Joseph,
départ.
Non, mais la dernière scène, c'est quand même, c'est d'un ridicule, c'est affligeant quand même. Enfin, sans rien divulgâcher, comme vous dites, c'est quand même à pleurer. Non, juste une toute petite chose. Moi, en le regardant, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est comme si j'étais en train de lire une très mauvaise BD d'aventure. Une très mauvaise bande dessinée de genre, de sous-genre, avec des sous-références. Et à un moment, je me dis non, ce n'est plus possible aujourd'hui.
C'est un peu la poursuite du diamant vert aussi. Hein.
Ouais. C'est pas Catherine Zeta-Jones ni Michael Douglas. Maroni, les fantômes du fleuve, à découvrir sur Arte la semaine prochaine. Série créée par Aurélien Molas.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.
Et le troisième sujet de cette dispute série, c'est un objet qui a déjà fait beaucoup parler, Calls, créé par Timothée Hochet, développé pour Canal+. On a beaucoup dit qu'il s'agissait d'une série télé avec un écran noir, ce qui n'est pas tout à fait vrai, même si le son est l'élément central de ces épisodes d'une douzaine de minutes à chaque fois. Tous les dialogues sont quand même affichés sur l'écran avec le nom du personnage correspondant, un habillage visuel qui intervient aussi, qui souligne quand même des moments dramaturgique. Il faut dire que c'est là la volonté du réalisateur, hein, pas du diffuseur. Timothée Hochet aurait voulu l'écran noir. Canal+ s'est dit, il faudrait pas qu'on croie qu'il y ait une panne à la télé. Bon, pour autant, c'est vrai, c'est une proposition audacieuse dont on va écouter un extrait.
Il est où, Isaé? Il est là. Reste bien à côté de nous. Tu nous entends au moins, Isaé? Ok, bon, suis-nous.
Jeanne.
Oui.
Je crois qu'on a un problème.
Quoi?
Là au-dessus de ma tête.
C'est juste un poulpe, Théo.
C'est juste un poulpe, Théo. Tu crois que je vois tous les jours des poulpes au bureau, moi?
La tempête va être là plus vite que prévu, donc dépêchez-vous.
Ok, on se dépêche. Il est où, Isaé? Il était pas à côté de toi?
Bah, je crois que si, ouais.
Bah, non, je pensais qu'il était devant avec vous. Tu le vois, Théo?
Non.
Manu, Isaé est déjà sur le bateau?
Non, pourquoi?
Merde, putain, je suis sûr qu'il
est retourné
dans la grotte.
Oh, on va l'attendre sur le bateau, sinon.
Non, on peut pas le laisser tomber. En plus, il sait pas que la tempête arrive plus tôt.
Bon, t'es pas obligé de venir avec nous, Théo, tu peux remonter direct. Ouais, je t'avoue que je préfère qu'on reste groupés, du coup.
Allez, restons groupés aussi pour parler de Calls. Donc, chaque épisode fonctionne avec ses sons, ses voix. Alors, ici, on a compris que c'était une plongée sous-marine. Il y aura aussi des répondeurs téléphoniques, il y aura des talkie-walkie, il y aura une boîte noire d'avion, enfin différents éléments absolument sonores pour nous raconter les histoires qui nous font souvent peur, Mathilde Serrel.
C'est 50 nuances de peur ce soir dans la dispute. Donc c'est vrai que c'est plusieurs façons d'inventer un récit sériel pour transmettre, voilà, aux spectateurs ces émotions de l'ordre du thriller, de l'horreur, etc. Donc on a vu l'approche de Black Mirror et la dystopie sur la technologie. On a vu cette approche vaudou, donc sur laquelle, voilà, on n'a pas été tous d'accord. Enfin, en tout cas, on n'est pas forcément d'accord avec Lucille. Passer donc de l'horreur, passer du stress, mettre le spectateur dans cet état-là sans image, je trouve que c'est une idée absolument géniale, sachant qu'il s'est inspiré, Timothée Hochet, des appels qu'on reçoit sur le 911, vous savez, ce fameux numéro qu'on compose aux États-Unis quand on veut joindre la police. Il est tombé sur des enregistrements donc de gens qui appellent apeurés chez eux. Il y a quelqu'un dans le jardin, j'ai entendu un bruit, etc. Et c'est vrai qu'en les écoutant, il a senti ce suspense de l'audio. On pense aussi évidemment à Blowout de Brian De Palma en 1981 avec John Travolta, qui aussi mène l'enquête à travers le son. Et c'est toute cette dimension du suspense, quand on doit recomposer ce qui se passe dans le réel, qui est exploitée et qui est effectivement une excellente piste. Faut voir aussi que les acteurs qu'il a réussi à voir, c'est beaucoup plus simple de les avoir sur une série comme ça.
Parce qu'un épisode, c'est une demi-journée.
Voilà, par épisode, juste à l'enregistrement. Donc il y a Jérémy Régnier, Sarah Forestier, Mathieu Kassovitz, entre autres, qui apportent...
Pour les secours, c'est Florence Loirecaille, donc c'est forcément formidable. On va envie d'appeler Florence Secours, non.
Florence Secours. Et qui font, je trouve, voilà, une très bonne performance chacun. Et l'intérêt aussi, c'est qu'il y a un réservoir dans chacun des spectateurs d'images d'horreur. On a tous vu ce que c'est que l'approche du tueur, on a tous senti ce que c'est que lorsque, voilà, peut-être on va se perdre dans une grotte sous-marine attaquée par un monstre.
Ça m'est arrivé il y a avant-hier, figurez-vous.
Il y a le Gravity d'Alfonso Cuarón lorsqu'un astronaute se perd dans l'espace. Donc on a finalement un réservoir d'images en tant que spectateur qui est à disposition et qui est mobilisé dans cette série à regarder. Et je trouve que c'est, du coup, sur l'économie de budget, extrêmement efficace. Et en plus, peut-être que ça amène vers une nouvelle forme de récit. Vous savez, ce truc incroyable technologique inventé au moment de l'imprimerie au XIVe siècle, vous tenez le truc dans les mains, il y a des images qui vous parviennent et des histoires que vous composez vous-même. Le livre.
Quelle bonne idée.
Eh bien, le livre, je trouve que c'est un peu un pas vers le livre, cette série, pour un public qui en est peut-être détaché.
On va peut-être y arriver au livre.
Le premier épisode, il a fait 460 000 vues sur YouTube, il y a eu énormément de commentaires. Donc, je pense que c'est produit par les gens du studio Beagle, Lorenzo Benedetti, qui font des choses assez rigolotes par ailleurs, plutôt pour les jeunes qui aiment YouTube, les jeunes. Bien là, je trouve qu'avec cet épisode, ils rentrent dans une autre forme de narration et je pense que ça peut ouvrir à d'autres goûts, d'autres univers, et pour ça, c'est très intéressant aussi.
Joseph Gosne sur Calls.
Calls.
Appel.
C'est évidemment intéressant, mais pour moi, à quelques autres niveaux. Le premier étant que j'ai l'impression de voir d'être mis face à quelque chose qui est en train de disparaître, c'est-à-dire la parole, parce que le premier épisode, ce sont des coups de fil, et finalement aujourd'hui, qui passe encore des coups de fil? Aujourd'hui, vous avez besoin de quelque chose, vous êtes en panique, etc. Vous envoyez des SMS. Donc, de ce point de vue-là, je trouve
comme
ça assez...
Comme dans Maroni, par exemple.
Exactement.
Une migale qui passe sur le téléphone sur l'écran.
Je n'osais revenir sur notre dispute précédente. Mais en tout cas, j'étais frappé par ça. C'est-à-dire, tiens, d'un coup, il y a quelque chose de l'ordre de l'échange, de la parole, qui finalement est en train de disparaître avec ses SMS, etc. Donc je trouvais ça plutôt assez intéressant. Ensuite, sur la forme elle-même, ce noir qui n'est pas vraiment du noir, puisqu'on a l'impression de voir des formes surgir, on a l'impression d'être d'être soi-même dans l'obscurité et d'apercevoir des choses. Ça m'a interpellé, mais en même temps, j'ai trouvé ça assez peu intéressant. J'aurais préféré une forme beaucoup plus radicale. Et par ailleurs, ça m'a fait penser ce dispositif-là m'a fait penser à un film de Derek Jarman, un film des années 80 qui s'appelait Blue, et que Jarman avait fait avec un écran bleu et uniquement de la musique et des voix, parce que Jarman était aveugle. Donc c'était enfin Jarman est en train de devenir aveugle, donc il ne voyait plus, il ne pouvait plus tourner de film visuel, mais il a tourné ce film qui est sonore. Mais là on est dans autre chose, et du coup je trouve que justement par rapport à Jarman qui avait fait un film, la durée me pose un petit problème, en fait. Parce que se retrouver confronté à 10 minutes, je trouve que ce n'est pas suffisant. Je trouve qu'on est un peu dans un exercice qui frôle un peu le gadget, qui effectivement frôle le YouTube, sauf que ce ne sont pas des images, et que YouTube, ce sont des images. Et que finalement, moi, j'avais envie d'être confronté à quelque chose qui me mette un peu plus mal à l'aise. Parce que là, comme le disait Mathilde, on convoque immédiatement des images qu'on a à notre disposition, on fait un peu valser notre imaginaire, c'est marrant 5 minutes, c'est pas assez long et ça ne vous confronte à rien vraiment dans le fond. Vous imaginez qu'il y a une drôle de créature, qu'il y a un monstre, etc. Mais finalement, ce qui est le plus intéressant, ce sont vos propres peurs, celles qui naissent au fur et à mesure d'un film, au fur et à mesure que vous voyez quelque chose en train de se développer. Ce ne sont pas les peurs que vous connaissez déjà. Et là, 10 minutes, je me dis, il y a quelque chose qui me laisse un peu sur ma faim, et j'avais envie qu'un dispositif comme celui-là, qui est assez extrême, me pousse moi-même vers d'autres extrêmes. Et de ce point de vue-là, ça ne me regarde pas assez, en fait. Voilà.
Lucille Comeau, sur Calls.
Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord avec vous, Joseph, parce que c'est pas vraiment 10 minutes puis 10 minutes, c'est 10 minutes fois 10 minutes. C'est-à-dire que ces épisodes-là, ils sont liés et que, à nouveau, c'est drôle d'ailleurs d'en parler le même jour que Black Mirror, parce que c'est extrêmement commun dans la forme. Il y a un épisode qui est un épilogue et qui fait le lien, si on l'avait pas tout de suite compris, parce que c'est vrai que le lien affleure un peu tard quand on écoute les épisodes. Mais de fait, c'est quand même extrêmement cohérent en soi, et moi je trouve qu'au contraire, au niveau de la durée, sur les 10 fois 10 minutes, ça se tient bien. Moi, au niveau audio, pour le coup, c'est pas ce qui m'a impressionné le plus. Vous parliez de films et d'expériences de ce type-là. Il y a quand même tout un courant qui, à mon avis, est très proche, qui est le audio footage, qui est cette espèce de courant du film d'horreur, type Cloverfield, Paranormal Activity, etc., qui sont des films qui sont exactement sur ce principe, c'est-à-dire que le son provient d'autres médias. Voilà. Et souvent, il y a en plus des effets d'obscurité, etc. Donc, moi, ça m'a fait énormément penser à ce type de film. Donc, de ce point de vue formel, ça m'a pas trop impressionné. En revanche, moi je trouve que visuellement c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire qu'il faut décrire un petit peu, il y a des effets en effet de lumière qui affleurent sur le noir, donc qui déchirent un peu l'obscurité par moment et qui participent quand même des effets de frayeur et de suspense, moi j'ai trouvé. Et en plus, je trouve que le graphisme qui consiste à mettre en face des noms des personnages des toutes petites bornes qui sont comme des petites loupiottes qui clignotent, c'est très beau. C'est visuellement, je trouve ça très beau au-delà de l'intérêt narratif de la chose.
Alors c'est vrai que j'étais plutôt séduit par les 2-3 premiers épisodes, et puis que peut-être il faut peut-être pas les voir à la suite, mais en même temps, c'est ce que vous venez de dire, au contraire, le Silcomo, donc je ne sais pas. Un peu de lassitude, mais je vais rester quand même sur la première impression, qui est surtout la qualité de jeu des comédiens, et qui sont pas tous des comédiens que j'apprécie, mais je trouve qu'il y a une qualité d'interprétation qui est vraiment très haute et qu'on on retrouve pas forcément quand les mêmes personnes sont également à l'image. Donc il y a vraiment quelque chose, bon, on est quand même bien placé pour le savoir ici à la radio, qui a une autre façon d'appréhender un micro que, effectivement, quand on doit faire attention à son corps, on va dire ça comme ça, même s'il y a, je crois, certains épisodes qui ont été tournés, enregistrés in situ. Les histoires, ce qui est assez normal, sont quand même assez inégales. Il y a des choses plus ou moins réussies, mais dans l'ensemble, c'est quand même de bonne tenue. Mais en tout cas, c'est vrai que ça, on renvoie toujours, mais on la cite souvent à cette phrase d'Orson Welles qui dit qu'il préfère la radio au cinéma parce qu'à la radio, l'écran est plus grand. Et c'est une démonstration, encore une fois, du génie visionnaire d'Orson Welles. Mathilde Serrel.
On parlait du lien entre tous les épisodes, mais on l'a pas explicité.
J'espère bien.
C'est la question. Non, mais c'est la question de l'apocalypse, sans rien révéler davantage. Et cette question de l'apocalypse, elle est intéressante. Bon, dans le parcours, en effet, du créateur Timothée Huchet, bon, il vient d'une famille comme ça protestante.
Oh, il est tout jeune, hein, j'ai lu. Il connaît. Je crois qu'il a 23 ans.
Voilà, il connaît par cœur en fait les chapitres qui concernent l'apocalypse. Mais c'est intéressant, je trouve, de ce qu'on va laisser au monde, nous, comme found footage. Quand on pense au dernier épisode qui se passe dans 1500 ans et qui va donc donner les clés des épisodes précédents.
Il y a les podcasts de toutes vos chroniques du matin.
Qu'est-ce qu'on va laisser, voilà, lorsqu'on va disparaître, quel musée sonore, quelles traces de nous, quels indices. Et par exemple, il y a un musée des sons qui a été monté sur Internet, qui est passionnant pour ce bruit du modem 56K, ce... Vous voyez, c'est le bruit d'une petite cassette vidéo lorsque vous la mettiez dans le magnétoscope, vous vous souvenez. Je pense que cette idée de mémoire sonore, c'est quelque chose à exploiter et que je trouve assez poétique dans l'élan.
Dernier mot, Lucille Comeau.
Non, vous parliez des acteurs, c'est vrai que c'est assez bien joué dans l'ensemble, mais à l'inverse, je trouve qu'il y a des acteurs qui sont des corps, vraiment, et dont la voix ne suffit pas. Et je pense notamment à Jérémy Régnier, c'est très étonnant, qui est plutôt un acteur que j'aime bien. Et je trouve qu'il en plus a un rôle important parce qu'il est récurrent et qu'il joue un pasteur. Je trouve que seulement sa voix, c'est extrêmement frustrant. À l'inverse,
ouais,
Gaspard Ulliel...
Je pense que c'est pas le meilleur rôle non plus, hein.
Non, peut-être. Peut-être qu'il est plus cliché.
Une faiblesse d'écriture.
Non, mais quand même, je pense qu'il y a aussi... c'est très, très discriminant pour les acteurs, mais c'est intéressant de ce point de vue aussi.
Et il y a un élément aussi dans l'univers contemporain de résonance, donc avec l'audio footage, on l'a évoqué, on allait un peu plus loin. Il y a aussi le podcast, cette dimension du récit podcast. On voit de plus en plus d'addictions. Il y a évidemment les pieds sur terre sur France Culture, mais il y a beaucoup d'autres de propositions. Et je trouve que ça relie aussi à cet univers du podcast qui est en pleine expansion et à ce récit par l'audio qui rencontre de plus en plus de succès davantage que
vous savez que la vidéo. Le son, c'est l'avenir. Et les GAFA sont à fond dessus. Donc, c'est pour dire, s'il y a de l'argent à se faire, c'est qu'il y a de la... c'est que c'est l'avenir. Calls, en tout cas, c'est de ça dont nous parlions. C'est réalisé par et créé par Timothée Hochet sur Canal+. Et pour conclure tout à fait cette émission, le jeu de la dispute, en commençant par un rappel du jeu d'hier au soir, et c'est Grégoire Diffior qui nous rappelle la question, à vous nous donner la réponse.
À la suite de quel célèbre fait d'armes de la résistance polonaise, le photographe Zbigniew Ljubak fut déporté à Auschwitz? La réponse était l'insurrection de Varsovie.
Et on fait gagner ce soir des invitations pour découvrir l'exposition sur grand écran « Moi, Claude Monet », c'est à partir du 23 janvier au cinéma. Quelle est la question?
Quel tableau du peintre fut la cible d'un cambriolage en 1985 au musée Marmottan?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations sur cette émission à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute. Site sur lequel on peut évidemment s'abonner au podcast de la dispute. Rendez-vous lundi à 19h, dispute spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Fabienne Pascaud, Lucille Como et Philippe Chevillier. Nous parlerons de La maladie de la mort, d'après Marguerite Duras, mise en scène Cathy Mitchell, La cantatrice chauve de Jeanne Ionesco, mise en scène Jean-Luc Lagarce, et puis Iliade, Odyssée, d'après Homère, de Pauline Bell.